Chapitre 14. Le lendemain matin, elle se leva de bonne heure. Rien n'aurait pu lui causer une plus grande joie que le mot qu'elle avait reçu, sinon qu'il eût été écrit par Jacques lui-même. Enfin, il ne fallait pas trop demander. Elle avait amassé des forces pour l'attendre jusqu'à l'automne, et il était déjà libre, si bien que les forces inutilisées avec lesquelles elle demeurait lui donnaient une confiance en elle qu'elle n'eût pas cru avoir le jour tant attendu. Elle s'habilla à la hâte, conduisit la fille de Denise chez la mère de cette dernière. Il était à peine 9 heures lorsqu'elle se retrouva seule. Pour ne pas arriver trop tôt rue Oudinot, elle ne prit pas de taxi. Elle monta dans un tramway, descendit à l'observatoire. Elle prit alors la rue d'Assas, s'arrêta un instant devant la maison où elle avait habité avec son père. Enfin, elle arriva rue Oudinot. « Ah, c'est vous, Colette !» s'écria M. Lézardouin. « Venez vite !» Il la conduisit dans la pièce où se trouvait Jacques. Il était debout et il avait l'attitude d'un homme qu'on a prié d'attendre et qu'on va venir chercher. Durant quelques secondes, Colette ne le reconnut pas. Ce n'était pas qu'il eût changé, quoi qu'il eût maigri au cours de ces 8 derniers mois, que ses cheveux parussent se coller sur sa tête, mais parce qu'il était muet comme sont ceux en qui nous croyons voir un proche. « Jacques, Jacques !» dit Colette en s'avançant vers lui. Il demeura impassible. Il avait les bras le long de son corps, comme il avait dû les avoir devant les juges. Il était visible qu'il était embarrassé. « Jacques, comme je suis heureuse de te revoir !» continua Colette, qui s'était arrêtée, qui n'osait s'approcher de cet homme, qui n'avait encore rien fait pour se distinguer des autres hommes, pour redevenir celui qu'elle avait aimé. « J'ai beaucoup pensé à toi, » dit-il enfin. « Je croyais que je ne te reverrais jamais. C'est pour cela que je ne t'ai pas écrit. Cela m'aurait fait trop de peine de t'écrire. » Pendant plusieurs minutes, Jacques parla ainsi, avec calme, sans manifester à aucun moment le plus petit désir d'embrasser Colette, de lui dire qu'il l'aimait. Elle crut comprendre qu'il était encore sous le coup de l'émotion du procès. Il y avait un quart d'heure qu'ils étaient en présence lorsque M. Lézardouin reparut. À haute voix, comme si son fils était dans un tel état qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il entendait, il dit à Colette « Il vaut mieux aujourd'hui que vous ne restiez pas plus longtemps. Revenez demain. » La nuit, Colette ne dormit pas. Elle avait une chambre qui donnait sur la rue, aussi entendit-elle les derniers autobus et, de temps en temps, comme un cri désespéré, un coup de frein qui, chaque fois, lui semblait devoir précéder un accident. Dans le demi-sommeil, elle attendait alors, les poings fermés, le cou rentré dans les épaules, les bruits de tôle et de glace d'une collision, les appels déchirants des blessés. Mais rien ne troublait le silence, et un nouvel espace de temps s'écoulait, durant lequel les pensées les plus sombres la poursuivaient. Il était une vérité qui se répercutait alors sans cesse à son esprit. La vie est une lutte continuelle. Rien n'est jamais acquis. Elle avait de plus en plus nettement le sentiment que le dénuement et l'amour dont elle avait fait preuve dans le passé ne seraient d'aucun poids dans l'avenir et que si elle voulait que Jacques l'aimât comme jadis, il lui faudrait le reconquérir. Parfois, des lueurs éclairaient sa chambre. Le désordre qui y régnait se présentait alors à elle et la frappait comme une de ces choses qu'un mari peut reprocher à sa femme. Si elle s'endormait quelques instants plus tard, c'était pour peu de temps. La pensée que Jacques était libre, que plus rien ne le séparait d'elle, puisque maintenant il était en règle avec les hommes et qu'il ne se trouvait pas à son côté, la réveillait en sursaut. Le matin, quand elle eut sonné chez M. Lézardouin, elle se réjouit que cette fois, ce ne fut pas ce dernier qui lui ouvrit. Elle pria le domestique de prévenir Jacques de son arrivée. Elle était décidée à lui poser des questions précises, mais seulement si l'occasion s'en présentait. Ce fut M. Lézardouin qui vint la recevoir. « Je viens d'apprendre, dit-il, que vous aviez demandé à voir Jacques. Bien que ce soit moi-même qui vous ai invité à venir aujourd'hui, je crois qu'il serait plus sage, Colette, que vous repartiez. Jacques a passé une très mauvaise nuit. À un moment donné, nous avons même pensé à appeler un médecin. Il délirait. Enfin, maintenant, il va mieux. Je crois néanmoins qu'il vaut mieux qu'il ne voie personne. Soyez raisonnable, Colette. Attendez quelques jours. attendez que Jacques se soit remis. Quand croyez-vous que je puisse le voir ? Attendez la fin de la semaine. Samedi ? C'est cela, venez samedi. Mais elle n'eut pas la force d'attendre jusque-là. Deux jours plus tard, elle revenait encore rue Oudinot. Elle apprit alors que Jacques était sorti, ce qui lui fit beaucoup de peine. C'était donc ainsi qu'il se reposait ? S'il était en assez bonne santé pour sortir, pourquoi ne l'était-il plus quand il s'agissait de la voir ? Elle voulut parler à M. Lézardouin, mais le domestique revint lui annoncer qu'il était sorti également. Enfin, samedi, Colette put voir Jacques. « Il est là, » dit M. Lézardouin, comme si Colette et lui avaient préparé cette entrevue en cachette de Jacques. « Suivez-moi, Colette. » Il frappa à la porte de la chambre de son fils, très doucement, comme s'il ne fallait pas qu'il se doutât que son père n'était pas seul. « Entrez !» M. Lézardouin ouvrit la porte avec précaution. « C'est Colette qui veut te voir. » Jacques était en train d'écrire. Il se leva, ne manifesta aucune surprise. « Entrez !» répéta-t-il en s'adressant aussi bien à son père qu'à Colette. Elle le regarda comme nous regardons une personne chère qui nous laisse dans l'embarras. Comment se faisait-il qu'il ne s'apercevait pas que par son attitude, il la mettait, chaque fois qu'elle venait rue Oudinot, dans une posture gênante ? Elle comprit aussitôt qu'elle n'eût même pas pu lui reprocher cela. En même temps qu'on ne pouvait douter que cette visite lui causât une certaine joie, il était visible que l'épreuve par laquelle il venait de passer l'avait déchargé de toute obligation envers son entourage. M. Lézardouin se retira enfin. Colette demeura un instant indécise. Elle ne savait comment s'adresser à cet homme avec lequel elle avait non seulement vécu pendant des années, mais à qui elle avait pensé sans cesse pendant des mois. D'une part, elle n'osait pas reprendre le ton de jadis, trop d'événements qu'elle ignorait s'étant déroulés depuis. De l'autre, elle craignait qu'en montrant une certaine réserve, Jacques ne l'imitât. À la fin, elle n'écouta que ses sentiments. Elle s'approcha de lui, lui prit les mains. Il eut un mouvement de recul. Elle le lâcha. « Qu'est-ce que tu as, Colette ? C'est plutôt à moi de te le demander. Je me demande si tu n'es pas... » Elle s'interrompit. Elle avait voulu dire « fou », mais c'était un mot qu'elle s'était toujours appliqué à ne pas prononcer devant Jacques. « Je me demande si tu ne m'as pas oublié. » « Je pense à toi chaque jour. Tu es la seule personne au monde que j'aime. Et tu m'accuses de t'avoir oublié. Vraiment, Colette, tu n'es pas juste. « Est-ce que tu m'aimes ?»« Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Colette s'assit. Elle était bouleversée, mais elle le fit comme une personne qu'une conversation intéresse. Si tu m'aimes, dis-moi pourquoi tu sembles m'éviter, pourquoi tu n'as aucune joie de me voir. Et je te fais remarquer que je ne te demande même pas pourquoi tu ne reviens pas près de moi. Je comprends que tu veuilles rester en ce moment près de ta famille. Je comprends même que tu veuilles attendre que nous soyons mariés. Mais pourquoi ne le dis-tu pas ? On ne m'a rien dit, mais je suppose, puisque tu es libre, que tu as été acquittée. Plus rien de ce qui nous séparait ne nous sépare aujourd'hui. Réponds-moi, est-ce que tu m'aimes toujours ? J'éprouve pour toi un nouveau sentiment. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'ai demandé si tu m'aimais toujours. Oui, je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Alors, pourquoi me parles-tu d'un nouveau sentiment ? J'aurais pu en effet ne pas t'en parler, puisque ce nouveau sentiment est de l'amour comme le premier. Colette garda le silence un instant. Quelque chose était changé, mais elle n'arrivait pas à démêler quoi. Enfin, Jacques, tu es libre maintenant. Tout est fini. Elle venait à peine de prononcer ces mots que Jacques, qui marchait de long en large, s'arrêta net. Durant plus d'une minute, il contempla Colette comme on contemple une personne à qui on a décidé de dévoiler un secret, mais en qui on feint de ne pas avoir encore confiance. L'expression de son visage devint grave. « Tu crois que tout est fini, mais rien n'est fini, » dit-il lentement, avec une solennité qui apparut à Colette comme manquant de naturel. « Est-ce que tu crois qu'après ce que j'ai fait, il suffit d'un acquittement pour que je me considère comme pardonnée ? Est-ce que tu crois que tout puisse finir si simplement ? Ma pauvre Colette, il faut que tu comprennes que je ne suis pas un homme comme les autres et que si quelque chose est fini, c'est ma vie. » Colette voyait à présent l'obstacle qui la séparait de Jacques. Il était beaucoup plus grand que tous ceux qu'elle avait pu redouter et beaucoup plus imprévu. Ce n'était ni la famille, ni la désaffection qui pût provoquer une longue absence, ni un abattement tel qu'il diminuât les sentiments, ni même un sincère et profond besoin d'expiation qui lui fit paraître vain tout ce qui n'était pas mortification. C'était autre chose. C'était que Jacques n'avait pas vraiment souffert, qu'à aucun moment il n'avait vraiment senti la gravité de son acte, et que, malgré cela, il voulait s'en donner l'apparence. Son séjour en prison ne l'avait ni fortifié ni affaibli. Il lui avait fait croire qu'il était, comme il disait lui-même, un homme qui ne ressemblait pas aux autres. Colette se cacha le visage dans ses mains et se mit à pleurer. Elle comprenait maintenant ce que Jacques avait voulu dire par un nouveau sentiment. Il avait voulu dire un amour intérieur. Ce sentiment, comme tous les autres, devait le grandir. Il allait lui servir à se créer une belle et noble attitude. À ce moment, M. Lézardouin parut. « Qu'as-tu fait, Jacques ? » demanda-t-il en se penchant sur Colette. Elle faillit se redresser et répondre « Vous le savez très bien !» car elle ne doutait plus que l'amabilité que lui témoignait M. Lézardouin depuis des mois venait de ce qu'il savait qu'elle ne l'engagerait en rien. Mais elle se retint. Le père de Jacques l'aida à se lever, la conduisit dans une autre pièce. Il la réconforta. Il fallait qu'elle comprît que Jacques venait de gravir un calvaire, qu'il ne pouvait pas redevenir tout de suite ce qu'il avait été, qu'il avait besoin de calme, de repos, pour oublier ce cauchemar. Pour le moment, le plus sage était de ne rien brusquer. On était au début de la belle saison. Monsieur et Madame Lézardouin conduiraient Jacques à la campagne ou au bord de la mer. Au retour, ils ne doutaient pas que leur fils éprouvât une grande joie en revoyant Colette. Quelques jours plus tard, elle retourna cependant rue Oudinot. Il lui était apparu en réfléchissant qu'elle s'était peut-être trompée, que Jacques souffrait réellement, que ce n'était que parce que sa famille avait toujours les yeux sur lui qu'il voulait faire croire à un drame moral se passant en lui. Elle le trouva dans la même disposition que la fois précédente. « Je suis content, dit M. Lézardouin, que vous soyez venu, car cela nous aurait fait de la peine de partir sans vous revoir. »« Vous partez ? » ?»« Après-demain, Colette, nous allons à Caux. » Elle regarda Jacques. Il était assis, la tête basse, en apparence, indifférent à tout ce qui se passait autour de lui.